Je ne suis pas partisan à l'idée de refaire quelque chose qui a marché. Pour moi, c'est un peu de la fainéantise, ou un manque de créativité. Et pourtant, beaucoup du monde du cinéma se lance dans cette démarche. Bonsoir, je suis Céleste du Guichet Choral, et aujourd'hui on va parler des remakes. Un remake est un film, jusque-là ça va, qui reprend une histoire déjà faite auparavant. Remake signifie littéralement « refaire ». On appelle donc ainsi les films dont le scénario a déjà eu une adaptation au cinéma auparavant. Attention quand même avec cette appellation, car le film doit respecter certains points clés pour entrer dans les codes du remake. Parce que sinon, c'est juste une inspiration, parfois très grande, mais pas suffisante pour appeler ça un remake. Genre par exemple, Star Wars de George Lucas, qui s'est grandement inspiré de la forteresse cachée d'Akira Kurosawa, un film japonais de samouraï de la fin des années 50. Le remake implique donc bien de refaire. Ils font donc des personnages semblables, pas forcément le même nom, mais des caractères qui se rapprochent fortement. Une histoire qui puisse se calquer sur l'ancien film, des plans qui se ressemblent, et paf, ça fait des chocs à pic, vous avez votre remake. Attention, il faut aussi différencier un remake d'un reboot. Un reboot est un film qui prend des personnages, des situations, ou un univers qui peuvent sembler similaires à un ancien film, mais dont la direction est totalement différente. Un exemple tout bête serait les films de super-héros, comme Superman ou Batman des années 80-90, et qui ont connu d'autres films récents avec d'autres acteurs, d'autres histoires, mais les mêmes personnages de base. Tandis qu'un remake ne va pas chercher à faire quelque chose de différent. Cela dit, pour les studios, il n'y a pas de grande différence. Dans les deux cas, ils capitalisent sur un nom ou une franchise à succès déjà existante, ramenant d'ores et déjà du monde en salle. Voilà pour la définition du remake. Sachez que ce n'est pas une pratique récente, puisque depuis le début, on en fait, pour des raisons évidentes que nous évoquerons plus tard. D'abord, je vais vous parler de films avant d'élargir. Les remakes peuvent être classés en deux catégories, ceux qui choisissent de faire du plan par plan, et ceux qui préfèrent insuffler leur propre style à un vieux film. Je n'ai pas beaucoup d'estime pour la première catégorie, car je trouve que cela enlève beaucoup d'intérêt au visionnage du premier film. C'est vrai, pourquoi s'infliger le visionnage d'une copie alors que l'original existe ? Surtout quand c'est fait sans aucune âme, avec des lions, sans aucune émotion, nous faisant regretter chaque seconde. En plus, ils ont enlevé la chanson de Scar, sérieux, c'était le meilleur moment du film, et là c'est...
Je crois que tu t'égares un peu, Céleste.
Oui, pardon. Je suis encore sous le choc du visionnage du Roi Lion qui m'a laissé quelques séquelles. Donc, ce qui nous intéresse est, bien évidemment, la deuxième catégorie est la plus répandue. Celle des remakes avec un style différent. Aujourd'hui, les remakes ont un peu mauvaise réputation. Lorsqu'une annonce tombe, c'est souvent accompagné par des « Oh non, mais pourquoi ils ont fait ça ?» C'est entre autres à cause des exemples que je vais vous donner. Alors, dans mon sac à malice, j'ai Aladdin et la Belle et la Bête, The Eye, Alice au Pays des Merveilles et Rollerball. Donc, du Disney Live, de l'horreur, de l'aventure burtonesque et de la SF. Commençons par Rollerball. Réalisé par John McTiernan, oui, le même John McTiernan qui a réalisé Piège de Cristal, Predator et Une Journée en Enfer. Ouais, le même qui a révolutionné le film d'action en imposant Bruce Willis comme une icône de blockbuster. Ce film, Rollerball, est sorti en 2002 et est donc le remake du Rollerball de 1975. Le film raconte l'histoire de Jonathan Cross, star d'un sport extrêmement violent, le Rollerball. Mais d'ici là, tout est logique. Cependant, ce dernier va vite se rendre compte des magouilles de Jean Reno, enfin pas Jean Reno, mais le personnage joué par Jean Reno, qui se sert des joueurs de Rollerball comme des pions pour arriver à ses fins. L'échec de ce film est expliqué par plusieurs choses. Déjà, le film est sorti après une très longue série de désaccords entre les producteurs du film et le réalisateur. Un grand nombre de défauts de ce film viennent d'ailleurs de ces désaccords qui ont donné lieu à beaucoup de réécritures et de remontages. C'est pourquoi on a finalement une version charcutée du film, ne correspondant pas du tout à ce que John McTiernan avait en tête en commençant le film. Si le sujet vous intéresse davantage, je vous conseille grandement le génial épisode de Chroma sur Rollerball, disponible sur internet, Dailymotion, YouTube, vous connaissez les bails. Ici, l'échec du film est donc dû à beaucoup de problèmes de production, venant de désaccords. Mais il arrive que les films n'aient aucun problème de production, et que les soucis viennent d'autre part. C'est là qu'intervient mon second exemple, The Eye, sorti en 2008, réalisé par David Moreau et Xavier Pallu, Cocorico, je suppose, et remake américain du film hongkongais The Eye, réalisé par les frères Pang. Les Américains aiment bien puiser leurs films d'horreur du côté de l'Asie de l'Est, entre ça, The Ring ou Le Dernier Train pour Busan, qui aura le droit aussi à un remake prochainement. The Eye raconte l'histoire d'une femme, Moon dans la version originale et Sydney dans le remake, qui est aveugle. Après une opération lui permettant de recouvrer la vue, elle se met à voir des formes inquiétantes et des personnes censées être mortes. Le remake états-unien est assez symptomatique des remakes de films asiatiques. Je ne sais pas si c'est par fierté ou quoi que ce soit, mais très souvent, les America Fuck Yeah doivent toujours faire plus grand, plus grandiose, plus pétant, passant à côté de toute la subtilité du film original. Et c'est malheureusement le cas de The Eye, qui nous offre une héroïne qui n'est pas une simple violoniste surnommée la reine des fausses notes, non. C'est juste la seule soliste de l'orchestre, toujours sur le devant de la scène car c'est la meilleure. D'ailleurs, elle n'est pas juste aveugle. Elle a des super pouvoirs qui lui font décupler ses sens comme Superman. Ah, et là où The Eye Hongkongais avait maîtrisé ses apparitions de fantômes avec subtilité sans les faire bondir trop souvent face caméra dans un cri, son homologue américain ne sait apparemment pas faire puisqu'il nous sert du jumpscare au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine chronique car l'horreur mérite son propre espace de discussion. Le grandiose, partout, tout le temps, c'est comme Tim Burton avec son remake d'Alice au Pays des Merveilles. Sorti en 2010 et racontant plus ou moins la même histoire que le film d'animation, Alice qui tombe dans un terrier de lapin et qui se retrouve dans un monde fantastique et bizarre. Le film prend très vite une direction... étrange. Ah, disons que le scénario ajoute une guerre, monstre légendaire à tuer, le tout dans une esthétique purement burtonesque. Hein. Des corps filiformes, de grosses têtes, des environnements penchés et tordus, un filtre noir et gothique, et servi par une musique digne d'une fanfare des enfers. Mais je sais pas ce qui s'est passé, on est dans une surenchère de n'importe quoi. À vouloir en faire trop, le film en fait vraiment beaucoup trop. On est très loin de l'invitation au merveilleux et au bizarre de l'original. Le film se place comme un remake et une suite, ce qui rend le tout un peu bâtard. Et Disney est bien habitué des remakes, car ces derniers temps, ils nous en ont servi une pelletée, comme Aladdin ou La Belle et la Bête, sortis respectivement en 2019 et 2017. En plus, plus ces remakes sortent, plus j'en questionne la pertinence, car on a beaucoup, voire trop, de similitudes avec les films d'animation originaux, en moins féerique car avec de vrais acteurs. On garde, certes, les chansons, mais l'animation permettait des choses que la prise de vue réelle ne peut pas faire, sauf à renfort d'images de synthèse. Mais du coup, il n'y a pas tant de différence avec l'animation, c'est juste plus réaliste et moins intéressant visuellement. D'autant plus que les réalisateurs ne tentent rien de nouveau. J'en veux pour preuve la scène de la chanson « C'est la fête » de La Belle et la Bête, qui aura pu bénéficier d'un véritable numéro à la Broadway, au lieu d'une réalisation assez convenue et banale, qui ne rend pas honneur au film d'origine. Le tout fait très plat réchauffé, avec des ajouts pas forcément très utiles. Genre, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu de la mère de Belle ? L'inclure dans le scénario n'apporte rien à l'histoire. Elle n'est pas là dans le film d'animation, et ça ne dérangeait pas du tout. Pareil pour le syndrome post-traumatique de Gaston, censé expliquer pourquoi il est méchant. Alors qu'il peut être juste méchant parce que c'est un sale connard, rien de plus.
Tu dis beaucoup de mal des remakes depuis 5 minutes, t'as l'air très énervé Céleste. Mais il doit bien y avoir des choses positives.
Évidemment, c'est comme tout, hein. Comme on dit, il y a du bon, il y a du moins bon, et il y a Pirates des Caraïbes 5. Par exemple, le remake de Cendrillon se classe dans la première catégorie. Sorti en 2015 et réalisé par Kenneth Branagh, il raconte l'histoire de Cendrillon qui veut aller au bal mais en est empêché par sa méchante belle-mère et ses horribles belles-sœurs. Tout le monde connaît l'histoire. Je dois vous avouer que je n'aime pas vraiment le classique d'animation de Disney. Je le trouve assez lent, mou, un peu niais, et les chansons manquent de grandiose. Le remake prend la décision d'enlever les chansons du film, ne les gardant que pour le générique de fin. Oui, même Bibidi Bobidi Boo. Les costumes sont magnifiques, mais bon, même dans les remakes nuls, les costumes et décors étaient jolis. Mais là où le film brille, c'est par sa réalisation qui a une vraie personnalité, avec ses cadres à la grue et ses mouvements assez fluides, dans lesquels les coupes ne sont pas tant présentes que ça par rapport à La Belle et la Bête.
Mais alors, pourquoi faire un remake ?
Eh bien, c'est pour 4 raisons principales que je m'en vais vous citer. Tout d'abord, pour un écart culturel. Eh oui, quand tu vois un film qui fonctionne bien à l'étranger, tu as bien envie de faire le même chez toi, pour avoir un max de moulins et pour faire rire les gens de chez toi. C'est pour ça qu'il y a eu un max de remakes de films d'horreur asiatiques, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi de comédies françaises. Il y en a eu aussi une pelletée. De Taxi aux visiteurs, en passant par Le Père Noël est une ordure, Le Grand Blond avec une chaussure noire, ou Un Indien dans la ville. Le but des remakes de ces films est donc de pouvoir proposer à un public qui serait hermétique à la culture des films originaux. Cela permet de rendre le message du film plus compréhensible à un public étranger. Et oui, la motivation n'est pas tout le temps l'argent. mais un peu quand même. Une deuxième raison serait l'écart d'époque. Les films faits à une certaine époque sont empreints d'une certaine vision, d'un certain langage cinématographique, avec des thématiques présentes à l'époque, mais qui aujourd'hui ne nous parlent pas forcément. Comme le Scarface de 1932, qui a son remake réalisé par De Palma en 1983, on a deux films qui ont la même histoire, mais le rythme, le ton et l'écriture sont différents car ils résonnent plus avec l'époque dans laquelle ils ont été réalisés. C'est comme réécrire un vieux livre avec un langage plus actuel, pour qu'il s'inscrive dans une époque plus actuelle. À l'image du Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, avec DiCaprio, qui transporte l'action des deux amoureux dans une banlieue des USA au plein cœur d'une guerre de gangs. Ensuite, on peut avoir un écart thématique. Par exemple, les comics Iron Man, on s'écarte légèrement de sujet, mais je vous promets que ça a du sens. À la base, l'ennemi était le communisme. D'ailleurs, l'un des plus grands ennemis de l'homme de fer était le mandarin, pas besoin de vous faire dessin. Alors, dans l'adaptation récente du Marvel Cinematic Universe, l'ennemi devient le Moyen-Orient et le terrorisme. Le mandarin est alors un personnage chef d'une organisation terroriste. Les thématiques sont un peu plus actuelles. Un autre exemple est l'invasion des profanateurs de sépultures, un film culte des années 50, dans laquelle des extraterrestres envahissent le monde en les remplaçant petit à petit, les humains par des copies. À la base, le thème était la paranoïa du péril communiste, mais au fil des remakes, qui sont au nombre de trois quand même, on a là des thématiques qui se renouvellent avec la dénonciation des guerres du Golfe et d'Irak, ou l'idée du complot gouvernemental. Enfin, en quatrième position, on a l'écart de qualité. Un réalisateur peut vouloir refaire un film en adoptant exactement la même démarche que le film d'origine, mais en le faisant plus grand, plus extravagant, plus explosif. C'est un peu mégalomaniaque, mais bon. Comme par exemple James Cameron qui a fait True Lies, qui est un remake d'un film de Claude Zidi qui s'appelle La Totale. Cette décision est un peu plus casse-gueule, parce que la folie des grandeurs peut parfois faire défaut. Et c'est pour ça, ces quatre arguments, qu'on a une flopée de remakes depuis le début du cinéma. Car des auteurs veulent se lancer à refaire quelque chose qui existe déjà, dans les domaines cités précédemment. Parfois, on peut avoir de belles surprises, si le studio laisse le réalisateur ou les réalisatrices faire un film avec leur propre style, comme Kenneth Branagh. Et tant que ces films existeront, les remakes auront tout de même un peu d'intérêt. Je vous laisse sur Eya, originalement chantée par Outkast, mais comme c'est une chronique sur les remakes, c'est une reprise par Panic at the Disco. Sur ce, voyez des films, portez-vous bien. Salut. 1, 2, 3. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna fucking stand to see me walk out the door? Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Sticking two together, cause we don't know how. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Forgot it, just don't get it, dude, there's nothing at all. We've been together, oh, we've been together, but separate's always better when that feeling's involved. If what they say is nothing is forever, then what makes, 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 love exceptions. So why, oh, are we so in denial when we know we're not happy here? Yeah! Your daddy, just want you in my caddy.